Le journal Frédéric Barrère, bonsoir.
Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information dans l'actualité ce soir. Une nouvelle frappe américaine contre un véhicule piégé à Kaboul en Afghanistan. Auparavant, un tir de roquette a frappé une maison. Aux États-Unis, Joe Biden rend hommage aux 13 soldats tués à l'aéroport de Kaboul. Nous serons avec Loïc Loury dans un instant. Une zone protégée à Kaboul pour permettre la poursuite des évacuations. Emmanuel Macron veut passer par l'ONU pour sa mise en place. Les talibans ne veulent pas de cette zone protégée. Vous entendrez dans ce journal en exclusivité les réactions d'un porte-parole des talibans. Dans l'actualité également, la suite de la visite d'Emmanuel Macron en Irak, étape à Mossoul aujourd'hui, et l'entrée en vigueur demain des 30 km/h à Paris. Et puis, inimaginable, il y a encore un mois, événement considérable dans le monde du football. Lionel Messi, ce soir à Reims, avec le PSG, Alexandre Vaux.
Oui, moins de trois semaines après avoir posé le pied sur le sol français. Effectivement, la méga star argentine va jouer ses premières minutes en Ligue 1 ce soir avec le PSG. Neymar et Mbappé. Frédéric, c'est ce qu'on appelle ici à Reims le football champagne.
Et on attend le premier but de Lionel Messi. On ira aussi à Tokyo à l'issue de la première semaine des Jeux paralympiques et un succès pour les Français avec déjà 26 médaillés paralympiques. Notre page agenda avec les temps forts de l'actualité à suivre avec un air de rentrée pour la semaine qui vient. Et puis notre rendez-vous du dimanche soir avec Sandrine Houdin, c'est mon actu, la rentrée justement avec Sandra Duhem, institutrice de maternelle qui nous livrera les répliques les plus improbables des tout-petits. Le temps pour demain encore nuageux au nord et ensoleillé au sud. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition et à 19h30, les petits bateaux Noël Bréham.
Bonjour, je m'appelle Andrea, j'ai 8 ans et je voudrais savoir pourquoi clé et serre se finissent par un S. Merci, au revoir.
Les petits bateaux Noël Bréham après ce journal.
France Inter.
L'Afghanistan et Kaboul, où le danger ne faiblit pas. Une nouvelle attaque était annoncée comme imminente. Une alerte avait été lancée hier par les États-Unis. Cet après-midi, une explosion a été entendue à Kaboul. Un tir de roquette a frappé une maison. Dans le même temps, l'armée américaine a bombardé une nouvelle cible à Kaboul. On retrouvera Loïc Loury dans un instant. Mais dans ce contexte de chaos, le débat diplomatique du jour concerne la création d'une zone protégée à Kaboul. Le président Macron a annoncé que la France et le Royaume-Uni demanderaient demain à l'ONU la mise en place de cette zone sanctuarisée pour les Afghans qui veulent fuir. Les talibans ne veulent pas en entendre parler. Valérie Crova, notre envoyée spéciale à Doha, au Qatar, a rencontré le porte-parole du bureau politique des talibans. Une interview en exclusivité de Souhail Chahine. Une communication, vous allez l'entendre, très cadrée et dans la ligne officielle du mouvement islamiste.
Ce n'est pas nécessaire. L'Afghanistan est un pays indépendant. Peut-on créer une telle zone en France ou au Royaume-Uni? Bien que nous ayons accordé une amnistie, chaque Afghan pourra de toute façon, après le 31 août, voyager à l'étranger s'il le souhaite. Mais comme c'est le cas dans n'importe quel pays, il ou elle devra avoir les documents appropriés, passeport, visa. S'ils disposent de cela, chacun pourra quitter l'Afghanistan et y venir en provenance d'un autre pays. Donc nous essayons, parce que c'est très important, de rouvrir l'aéroport au plus vite.
Souhail Chahine, porte-parole des talibans à Doha avec Valérie Crova, interview à retrouver sur franceinter.fr et demain matin dans les journaux de la rédaction. Cet après-midi, je vous le disais, l'armée américaine a donc mené une nouvelle frappe à Kaboul. En direct de New York, on retrouve Loïc Loury. Bonsoir Loïc.
Bonsoir Frédéric.
Une frappe contre une voiture piégée.
Oui, l'un des porte-parole du commandement central américain évoque une frappe d'autodéfense menée par un drone à Kaboul visant à éliminer une menace imminente du groupe État islamique sur l'aéroport Hamid Karzai. En l'occurrence, il s'agissait donc d'un véhicule. Nous sommes certains, dit ce porte-parole, d'avoir atteint la cible. Il parle d'importantes explosions secondaires qui indiqueraient, Frédéric, la présence d'une quantité non négligeable d'explosifs. Alors, pas d'informations jusque-là autour d'éventuelles victimes civiles. Hier, Joe Biden avait fait après savoir qu'un nouvel attentat après celui de jeudi était hautement probable alors que les évacuations se poursuivent à l'aéroport de Kaboul.
Une Amérique, Loïc, toujours traumatisée par la mort des 13 de ses soldats dans les attaques de l'aéroport à Kaboul. Cet après-midi, le président Joe Biden s'est recueilli devant les cercueils des 13 militaires tués.
Oui, absolument. Joe Biden est dans le Delaware avec son épouse pour cet événement privé. Pas de caméra. Le président a assisté à l'arrivée solennelle des corps des 13 soldats morts jeudi. Des rencontres avec les familles étaient également au programme. Cela se déroule sur la base militaire de Dover, qui est bien connue des Américains puisque c'est ici qu'arrivent les corps de soldats rapatriés aux États-Unis. Pour l'actuel président, c'est une première. Rappelons qu'aucun soldat n'était mort en Afghanistan depuis mars 2020. Parmi les victimes de jeudi, 5 étaient âgés de 20 ans. C'est aussi la durée de cette guerre la plus longue pour les États-Unis qui est en train de s'achever. Dernier délai pour le retrait américain le 31 août, c'est-à-dire ce mardi, toujours donc Frédéric, sous la menace, on l'a vu, de nouveaux attentats de la part de l'État islamique.
Loïc Loury, en direct de New York, merci. Cet après-midi, le dernier avion français a quitté Kaboul, est arrivé en France, donc à l'aéroport de Villacoublay, à son bord du personnel militaire, des diplomates, dont l'ambassadeur de France en Afghanistan, David Martinon. Delphine Evenou.
Après une escale à Abu Dhabi, cet A400M de l'armée de l'air a donc atterri à 16h30 précise sur la base aérienne 107 de Villacoublay. À son bord, environ 70 personnes, aucun Afghan, contrairement au vol précédent, mais des personnels militaires, des employés de l'ambassade de France aux Émirats Arabes Unis, et puis des diplomates, notamment David Martinon, l'ambassadeur de France en Afghanistan, qui va désormais opérer depuis Paris. Tous ont été accueillis, loin des micros et caméras des journalistes, par le Premier ministre Jean Castex et par la ministre des armées Florence Parly. Cette dernière rotation marque la fin de l'opération Apagan. Au total, ce sont 2834 personnes, dont 2600 Afghans, qui ont ainsi été évacués de Kaboul par les forces françaises. Mais ils restent encore sur nos listes, expliquait ce matin dans le journal du dimanche Emmanuel Macron. Il reste encore plusieurs milliers d'Afghans et d'Afghanes que nous souhaitons protéger. Sur la base aérienne de Villacoublay, Delphine Evenou pour France Inter.
La situation en Afghanistan a bien sûr été au cœur de la visite en Irak ce week-end d'Emmanuel Macron. Deuxième jour aujourd'hui de son déplacement en Irak. Emmanuel Macron s'est rendu à Mossoul, une ville dévastée par Daesh. Le président Macron a visité ce matin une église et cet après-midi, il s'est rendu sur le site d'une mosquée détruite lorsque la ville a été reprise au groupe État islamique. Sur place à Mossoul, Maxence Lambrec.
Une esplanade déserte sous une chaleur étouffante. Emmanuel Macron a voulu visiter le berceau de Daesh.
Abou Bakr al-Baghdadi,
Il décrète le calife.
Alors attends, regarde, il y a cette jeune fille qui m'a. Vas-y, monsieur le président.
Un bouquet de fleurs et des sourires au milieu des décombres. À côté, le minaret, symbole de la région, n'est plus qu'un bloc de pierre. C'était leur tour de Pise. Les djihadistes ont tout détruit avant leur départ en 2017. L'UNESCO s'occupe maintenant de la restauration. Les Émirats Arabes Unis financent largement. La France vient-elle apporter un soutien politique presque spirituel ?
Permettre ici à des sunnites, pas simplement de retrouver leur lieu, mais toute leur place dans la région et de porter un message de paix qui va avec leur religion contre un obscurantisme porté par d'autres, c'est essentiel.
Que chacun retrouve sa place. Juste avant, Emmanuel Macron a visité une église en reconstruction dans cette vieille ville en ruine où il ne demeure qu'une poignée de chrétiens. Les chantiers sont immenses, mais comme le pape François ici il y a 6 mois.
Thank you so much.
Emmanuel Macron veut poser sa petite pierre et se montrer au chevet des Irakiens. Mossoul, Fabien Gosset, Maxence Lambrec, France Inter.
L'actualité politique riche en France avec cet après-midi Laurent Wauquiez qui referme ce week-end de rentrée politique à gauche et à droite. Laurent Wauquiez qui s'est retiré de la course à la présidentielle a mis en garde contre le poison des divisions à droite lors de sa traditionnelle montée du Mont-Mézin en Haute-Loire. Christophe Vincent.
Laurent Wauquiez a choisi sa 10e ascension du Mézin pour expliquer son renoncement à ses fidèles.
Aucun candidat n'a aujourd'hui la force et la densité pour imposer sa candidature comme avaient su le faire Nicolas Sarkozy, Georges Pompidou ou le général de Gaulle à leur époque. Il faut sentir quelque chose de plus, que l'on est en situation de rassembler à la fois sa famille et les Français. Et je considère aujourd'hui en conscience que ce moment pour moi n'est pas venu.
Laurent Wauquiez prône l'unité, mais pour les militants, pas question de soutenir Xavier Bertrand.
Je ne vois pas pourquoi on irait soutenir Xavier Bertrand avec nos cotisations.
alors qu'il est parti en claquant la porte et en crachant sur les Républicains. C'est clair et net.
Il n'a pas été honnête. Il se débrouille. Hein.
Xavier Bertrand, c'est possible ou pas?
Non, il n'est plus LR. Nous, on est LR.
Il n'y a rien de net avec ce garçon.
J'ai jamais forcément été une convaincue de Xavier Bertrand. On fait pas les choses dans le dos des gens.
Tous l'assurent, Laurent Wauquiez sera là en 2027.
J'espère que je vais le voter dans 5 ans et demi.
Laurent Wauquiez est aujourd'hui 46 ans. Laurent Wauquiez président, ça arrivera.
Aux Estables, en Haute-Loire, Christophe Vincent, France Inter.
C'est une nouvelle habitude au volant qu'il va falloir prendre et vite à Paris. Dès demain, la vitesse sera limitée à 30 km/h dans la grande majorité des rues à Paris. Et cette mesure est loin de mettre tout le monde d'accord. Les opposants disent qu'à 30 km/h, les voitures polluent plus. Non, répondent les partisans. C'est le flot des voitures qui compte. Les précisions de Benoît Hiron, responsable de la sécurité des déplacements au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement et la mobilité. Il répond à Célia Quiré.
Il y a une légère augmentation des émissions lorsque le véhicule roule à 30 km/h plutôt qu'à 50 km/h. Mais ça, c'est quand on prend un véhicule. Lorsqu'on passe à un ensemble d'un territoire que l'on fait basculer en zone 30, l'objectif, c'est d'arriver à une vitesse qui soit plus homogène. Il y a moins besoin d'accélération pour atteindre ce mythique 50 km/h qui est rarement possible. Et donc, une partie des gens se rendent compte que pour des trajets courts, ils sont gagnants à aller à vélo ou à aller à pied. Et l'évolution de la mobilité, si je prends le territoire de Grenoble Métropole, 3 ans après l'installation du 30 km/h généralisé, j'ai 9% de trafic voiture en moins, donc autant de véhicules thermiques qui n'émettent plus de pollution. Donc globalement, je devrais être gagnant.
Voilà, 30 km/h à Paris dès demain. Benoît Hiron, responsable de la sécurité au CEREMA. h 12 sur France Inter, la page sport de ce journal. Bonsoir Marine Clette.
Bonsoir Frédéric.
Et bon, on va démarrer avec du football et Lionel Messi à Reims.
Oui, exactement. Il joue contre Reims ce soir. Alors on revient dessus dans quelques minutes, mais d'abord on jette un œil sur les résultats de cette 4e journée de Ligue 1. Fabrice Abgral, il y avait 6 matchs cet après-midi.
Et Angers s'installe provisoirement en tête de la Ligue 1. Les Angevins ont dominé Rennes 2-0 grâce à ce 3e succès de la saison. Bien, le SCO d'Angers, toujours invaincu, occupe seul la première place du classement avec un point d'avance sur le PSG qui joue ce soir à Reims. En effet, sinon, une seule victoire à l'extérieur ce dimanche, celle de Monaco à 3, 2-1, victoire à l'extérieur et premier succès de la saison pour les Monégasques. Première victoire de la saison aussi pour deux autres équipes, Lille, le champion de France en titre, et Strasbourg. Les Lillois, dans la souffrance, ont battu Montpellier 2-1. Les Strasbourgeois à domicile ont dominé Brest 3-1. Les Brestois n'ont toujours pas gagné un match cette saison, tout comme Metz, qui est allé faire match nul à Clermont. 2-2. Clermont qui préserve son invincibilité. 2-2, c'est également sur ce score que Lens et Lorient se sont séparés. Je vous rappelle que vendredi, Lyon s'est imposé à Nantes 1-0. Hier, très large victoire à domicile de Nice et Marseille. Les Niçois ont humilié Bordeaux 4-0 et les Marseillais ont dominé Saint-Etienne 3-1. Alors au classement, Monaco et Strasbourg quittent la zone de relégation, occupée désormais par Bordeaux et Troyes. En haut du classement, Angers est provisoirement leader avec un point d'avance sur le PSG, 2 sur Clermont et 3 sur Nice et Marseille.
Et justement, le PSG vers qui tous les yeux sont rivés ce soir, Lionel Messi, fraîchement recruté, va jouer pour la première fois sous les couleurs du club parisien. Le sextuple ballon d'or est clairement l'attraction de cette rencontre qui se joue à guichet fermé. On retrouve Alexandre Vaux qui est en ce moment au stade de l'Aune à Reims. Un stade bondé, 20 000 personnes venues admirer ce premier match historique, Alexandre.
Oui, historique. 3 semaines après l'arrivée du meilleur joueur du monde à Paris, Marine, le rêve fou des Parisiens va enfin devenir réalité quand Lionel Messi va fouler pour la première fois tout à l'heure une pelouse française avec le maillot du Paris Saint-Germain sur les épaules. Les joueurs du PSG, dont Lionel Messi, bien sûr, qui viennent d'arriver tout juste au stade Auguste Delaune. Et puis l'histoire, vous parlez de ce mot, va commencer entre la mégastar argentine de 34 ans et la Ligue 1 devenant le plus grand joueur à évoluer dans le championnat français. Moment historique aussi pour le PSG, déjà bien lancé dans cette saison où le club de la capitale espère tout gagner avec le sextuple ballon d'or, vous l'avez dit, dans ses rangs, qui n'a pas joué depuis l'an juillet quand même. Lionel Messi, il pourrait être donc remplaçant au coup d'envoi, à contrario de Kylian Mbappé, titulaire en attendant son transfert au Real Madrid.
Oui, justement, Kylian Mbappé qui est peut-être, qui est ce soir en tout cas sur Reims et qui est convoité par le Real Madrid. Sa présence ce soir veut-elle dire qu'il reste à Paris ?
Bah écoutez, depuis plusieurs jours, il est annoncé par la presse espagnole au Real Madrid. Et effectivement, il est là ce soir. Il s'est entraîné hier tout sourire avec ses coéquipiers. Le champion du monde français de 22 ans, on le sait, ne veut pas prolonger à Paris. Mais il ne serait finalement pas pressé de partir, quitte à honorer sa dernière année de contrat. Il jouera donc ce soir, on l'a dit, vraisemblablement titulaire. La première et peut-être aussi dernière fois si Kylian Mbappé signe à Madrid d'ici la fin du marché des transferts mardi minuit. De plus pour bien profiter du spectacle ce soir de cette première historique à Reims.
Alexandre Vaux en direct de Reims.
Alors dans les rangs rémois, Marine, il y en a un qui connaît bien et même très bien Léo Messi.
Et oui, Oscar Garcia. Alors aujourd'hui c'est l'entraîneur de Reims, mais il a lui aussi été joueur et il partage avec Messi bien plus que le match de ce soir. Alexandre Audabram.
Comme Lionel Messi, Oscar Garcia a été formé à la Masia, nom donné au centre de formation du FC Barcelone. Comme Messi aussi, l'entraîneur rémois a été joueur de Barcelone entre 1991 et 1999. Il peut aussi dire qu'il a déjà entraîné une équipe qui a affronté le Barça de Messi. C'était avec le Celta Vigo il y a maintenant 2 ans. Alors forcément, Oscar Garcia sait plus que jamais qui est Messi, même si son regard est avant tout celui d'un amoureux du football.
Je suis un grand admirateur de Messi. Je suis sûr que je ne verrai jamais un joueur comme lui, parce que c'est le meilleur de l'histoire. Pour moi, je suis triste parce qu'il ne jouera pas avec Barcelone, mais je suis content parce qu'il est ici et c'est une très bonne chose pour les championnats.
Lionel Messi et Oscar Garcia vont donc se recroiser ce soir, une perspective difficile à imaginer il y a encore quelques semaines pour ces deux anciens du FC Barcelone.
Alexandre Audabran de France Bleu Champagne-Ardenne, Reims-PSG, coup d'envoi à 20h45.
L'actualité sportive en ce moment, c'est aussi les Jeux Paralympiques. Ils ont lieu à Tokyo au Japon et ils permettent de s'initier à des sports inédits.
Oui, certains sports sont spécifiques à la pratique paralympique, par exemple la boccia, un sport créé en Italie. Alors boccia, ça veut dire boule, c'est une pratique réservée aux athlètes atteints d'un handicap cérébral et c'est la première fois qu'une équipe de France est qualifiée, Guillaume Batin.
La boccia se joue sur un parquet comme au basket, en individuel ou par équipe. Les règles s'inspirent de la pétanque avec un zeste de curling, de billard et d'échecs. Sophie Ternel est directrice sportive de la boccia.
Ça se joue en 4 manches. Chaque joueur en individuel a 6 balles. Le but du jeu est de se rapprocher le plus possible de ce qu'on appelle le jack ou le cochonnet. Le jeu est tactique, technique et c'est un sport de précision et d'adresse.
Samir Vanderbecken est membre de l'équipe de France de boccia.
Il faut être très fort mentalement. Surtout que la boccia, c'est ça, c'est un jeu d'échecs, c'est un jeu de construction. Et c'est celui qui va mettre vraiment en échec l'adversaire en premier, qui sera en bonne posture pour la suite du match. Mon assistant en fait est dos au jeu et m'aide un peu à, comme si c'était les mains. Et moi je lui dis tout ce qui est hauteur. Enfin, en fait je suis le cerveau et lui c'est les bras. Et il ne peut pas tricher, il est obligé d'écouter tout ce que je lui dis. Et il n'a pas le droit de regarder du tout le jeu, sinon c'est pénalité, c'est strict.
Stop, vers toi. Stop, c'est bon. Serre, la canne. Tu vois, 19.
Certains joueurs de boccia envoient la balle à la main, ceux qui n'en ont pas la capacité utilisent une rampe. La balle est coincée le temps que l'assistant écoute les consignes pour orienter la rampe dans la bonne direction et placer la balle à la bonne hauteur. Thomas Walgraf est l'assistant de Sanir.
La position d'assistant dans ces moments-là pourrait être frustrante. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, les émotions, je les vis pleinement. Que ce soit dans l'euphorie d'une victoire ou dans la frustration d'une défaite, on les vit pleinement, même en étant dos au jeu.
On a été champion d'Europe pour la première fois de l'histoire de l'équipe de France. Et ça nous a permis aussi de qualifier l'équipe de France pour Tokyo, pour les premiers Jeux Paralympiques.
On est vraiment sur de la passion pure et sur l'amour du sport pur aussi. C'est ça qui donne envie de continuer avec eux et qui donne envie de donner aussi pour qu'ils puissent y arriver. C'est ça, à mon sens, l'essence du sport en boccia.
Samir doit disputer 3 rencontres en individuel. Il a perdu les 2 premières.
Quelques défaites, mais pour nos Français à Tokyo, il y a surtout des médailles, beaucoup de médailles, 7 rien que la nuit dernière. Une collection de bronze avec 6 breloques, parmi elles celle de Nathalie Benoît en aviron. Dans la catégorie des bateaux skiff, la tricolore de 41 ans savoure cette médaille durement gagnée.
J'avais bien dans ma tête que les 2 premières places étaient inaccessibles, elles sont au-dessus du lot. Bon voilà, j'en avais conscience, donc je voulais pas les accrocher parce que je me suis dit là tu vas te griller. Par contre, je savais qu'on était 3 à chercher à avoir cette médaille de bronze, donc je me suis dit tout le monde va partir vite. Fais ta course, reste dans ton bateau. C'est aussi le conseil qu'on m'avait donné, hein, c'est pas venu. Et ça s'est passé comme prévu. J'ai réussi au coup par coup, comme on dit, à prendre un petit peu d'avance. Et à partir de là, quand je voyais les attaques, et donc quand on voit les attaques, c'est vrai qu'on est en position de force, on peut les contrer. Et ben, j'ai réussi à le faire, donc c'est la course que j'avais visualisée, donc je l'ai très très bien vécue et je suis très heureuse.
Ce soir, la France est 13e au classement avec 26 médailles.
Et on termine avec du sport collectif, volley et hockey sur glace.
Les volleyeuses françaises disputent actuellement les 8e de finale du championnat européen. Elles affrontent la Croatie, pour le moment égalité, 2-7 partout. Et puis vous l'avez dit, on termine avec du hockey et le tournoi de qualification olympique. Malheureusement, ça ne passe pas pour nos Français qui s'inclinent 2-1 face à la Lettonie. Pas de qualification donc, ça fait 20 ans que le hockey sur glace n'est pas présent au JO pour les Français.
Et puis on a appris la mort de Jacques Rogge, président du Comité international olympique de 2001 à 2013. Jacques Rogge était âgé de 79 ans.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine, et on ouvre l'agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient avec d'abord demain lundi le pass sanitaire qui devient obligatoire également pour les employés dans les restaurants, les cafés, les grands centres commerciaux, les musées et les cinémas. À noter également demain le début d'une nouvelle semaine de fouilles dans les Ardennes pour rechercher le corps de la petite Estelle Mouzin. Et la semaine qui vient est une semaine de rentrée sociale. D'abord mercredi, Jean Castex reçoit Matignon, les syndicats et le patronat, et je dit, c'est une rentrée masquée, la rentrée des classes. Pour tout le monde, en présentiel, mais avec un masque à l'intérieur dès le primaire et à l'occasion de cette rentrée scolaire. Emmanuel Macron va passer 3 jours à Marseille, de mercredi à vendredi, en compagnie de plusieurs ministres, Simon Le Baron.
Il veut être omniprésent en cette rentrée. Ce séjour marseillais sera donc l'occasion pour Emmanuel Macron de monter au front sur plusieurs sujets. Sur la sécurité d'abord, après une série de règlements de compte cet été, le président annoncera un grand plan Marseille pour la rénovation des écoles, le désenclavement des quartiers ou la lutte contre l'habitat indigne. Sur la gestion de la crise Covid, ensuite, la rentrée des classes fait craindre à certains spécialistes une reprise épidémique. Le chef de l'État sera jeudi dans une école pour défendre le protocole sanitaire mis en place. Sur l'écologie, enfin, Emmanuel Macron entend vanter son bilan. Alors qu'Europe Écologie Les Verts n'a pas encore désigné son candidat, il participera vendredi au congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Sécurité, gestion de crise, écologie, 3 thématiques majeures du débat vers 2022. Ajoutez-y les inévitables bains de foule que le président s'offrira à Marseille et vous avez là ce qui ressemble à un déplacement de campagne.
Autre temps fort de la semaine, et ô combien, puisque c'est la rentrée demain sur France Inter, sur votre radio, avec de nouvelles voix dans le 7-9, aux côtés de Léa Salamé et Nicolas Demorand, Natacha Polony, Cécile Duflo, Alexandre Devecchio, Étienne Gernel et Anne-Cécile Maillefer, et d'autres personnalités lors de différents nouveaux rendez-vous dans la semaine que vous allez découvrir. Ce soir, on a voulu mettre l'accent sur le travail exceptionnel et très documenté, vraiment, que nous allons vous proposer autour des attentats du 13 novembre 2015, et dont le procès démarre le 8 septembre prochain. Charlotte Piret, Sophie Parmentier vont suivre la totalité du procès, mais à partir de demain, elles nous proposent une série de Zoom à 7h15 autour des témoignages de victimes, des forces de l'ordre et de secouristes intervenus en premier sur les terrasses et au Bataclan, extraits de plusieurs de ces témoignages.
Face à moi, il y a quelques mètres, il y a la jambe de quelqu'un, quoi. Et puis je m'approche du reste du corps et là je constate qu'il y a des fils électriques qui se dépassent du t-shirt.
Donc nous, quand on arrive, on a des corps sur 2-3 étages de corps, en fait.
Éloignez-vous, madame, éloignez-vous.
Et on avait à ce moment-là aussi qu'une peur, c'était de ne pas savoir où étaient les tireurs.
J'ai ce souvenir très précis de ce chef de colonne disant « on va y aller, mais on ne va pas tous revenir ».
Ils n'avaient rien d'effrayant. C'était des jeunes en survêt, comme on en croise n'importe où, quoi, et en basket.
Mon fils est impliqué dans cette histoire du Bataclan. J'étais à la fois triste, j'étais en colère.
Moi, j'étais même pas en colère, j'étais atterré qu'on ait tué Lola dans le cadre d'une guerre qui se déroule au Proche-Orient. Quel rapport ?
En fait, j'avais envie de savoir comment sa maman et sa grand-mère avaient été tuées, parce que ça fait 5 ans là, qu'il ne m'a jamais parlé de sa maman.
Il m'a fait la liste de ce qu'il ne ferait plus avec son père, donc lui, tout de suite, il est rentré dans le deuil.
Je me plaignais pas d'avoir perdu ma maman, je n'allais pas pleurer, mais je voulais que personne me voie. Encore aujourd'hui, pour moi, je suis tout seul.
Voilà, premier zoom demain donc de Sophie Parmentier, vendredi 13 novembre 2015, vendredi de cauchemar, un dossier complet également à retrouver sur franceinter.fr. Et puis sur France Inter, il va falloir prendre une nouvelle habitude d'écoute. Votre radio change de signature sonore. Les top horaires auxquels vous êtes habitués toutes les heures avant les infos, eh bien, ils se modernisent. Voilà les top plus pop avec cette nouvelle mélodie qui démarre demain dès 5h sur Inter. Voilà une partie du programme qui vous attend sur votre radio. La rentrée, encore rentrée scolaire, mais cette fois du côté des professeurs. Sandrine Houdin a rencontré Sandra Duhem. Elle est institutrice au Havre, 20 ans de maternelle, et elle publie les répliques les plus improbables de vos tout-petits lorsque vous les avez déposés en classe. Le livre s'appelle « Maîtresse, mais pourquoi ?» Il sort le 2 septembre aux éditions de L'Opportun. Sandra Duhem, écoutez, c'est savoureux.
Il y a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école.
Bah c'est sans filtre.
Genre ?
Les enfants font un dessin. Et je dis à un petit garçon, c'est bien, c'est ta maman là ? Mais non, c'est pas ma maman, c'est toi. Maman, elle a pas des grosses fesses comme ça.
Et là ?
Et là, moment de solitude.
Et ça, c'est souvent ?
Très souvent. Ils arrivent avec des têtes d'ange et parfois, la chute est terrible pour nous. Terrible. Maîtresse, ma grand-mère, elle a les mêmes chaussures que toi. Oui ? Ou alors, pourquoi t'as des petits tétés ? Bon.
Prends ça dans la figure.
Maîtresse, t'as allé chez le coiffeur ? Bah oui, tu aimes bien. Ah non, t'es moche. Hein. Bon.
Encore ?
Bah, on est très contente hein, quand on ouvre un cadeau de fin d'année. Après, quand on sait pourquoi, c'est autre chose. C'est le sac à main que maman, elle voulait plus mettre. Donc toi, il t'ira bien.
C'est ça qui vous fait aller au boulot tous les jours ?
Oui, c'est jamais monotone. Quand je dis à une petite fille d'arrêter de bavarder en travaillant, elle me répond, bah, maman, elle dit que les filles, elles peuvent faire plusieurs choses en même temps.
Sandra, celle qui vous a le plus peut-être laissé sans voix ?
C'est quand je dis à une petite fille d'arrêter de dire des gros mots et qu'elle me répond, mais mes parents, ils disent toujours des gros mots. Et d'ailleurs, ils disent que t'es une vraie casse-couille.
Alors, vous en prenez plein la figure, il y a tellement de petites perles, mais tellement tendres.
Oui, c'est vrai. Hein. Quand un gamin nous dit « Mais maîtresse, pourquoi je suis plus dans ta classe cette année ? Tu m'aimes plus. Hein. » Mais si, mais tu es passé dans la classe supérieure. Bah, pas toi, t'as mal travaillé ?
Au moins, ça mérite de vous faire sourire.
Oui, parce que nous, on visualise toujours la tête des gosses, quoi. Je revois encore le môme arriver de la cantine et me dire « Maîtresse, si j'avale un os, est-ce que ça me fait un os de plus ? Maîtresse, je peux ramener le poisson rouge de la classe à la maison ? Bah, pourquoi faire ? Bah, pour savoir si les chats aiment les poissons rouges.
Évidemment.
Évidemment. Ramène le poisson, je t'en prie.
Ah, il y en a une que j'adore. Quand vous dites « Tu travailles pas bien, ce soir, j'en parle à ton papa et il vous répond. »
Rapporteuse.
Allez, encore une autre.
Mais je dis aux enfants que certains vont aller à l'infirmerie pour faire une piqûre de rappel. Pour se rappeler de quoi, maîtresse ?
Une dernière.
Une sortie en forêt et les enfants, quel arbre donne les glands ? Bah, le glandeur ! Et rien que pour ça, on réenfile le cartable.
Voilà. C'est mon actu avec Sandrine Houdin. Ce soir, Sandra Duhem, institutrice de maternelle. Son livre « Maîtresse, mais pourquoi ?» sort jeudi aux éditions de L'Opportun. Avant de se quitter, cette dernière information pour vous signaler que l'ouragan Ida, dont on vous a parlé aujourd'hui, un ouragan jugé extrêmement dangereux, a touché terre en Louisiane, avec des vents allant jusqu'à 240 km/h. Ida s'est abattu au sud de la Nouvelle-Orléans, 16 ans, jour pour jour, après l'ouragan Katrina qui avait dévasté la région aux États-Unis. Au générique de cette édition, Arthur Le Breton et Raphaël Rousseau en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal avec Estelle Schmitt à la rédaction en chef, assistée de Swat Bellani et de Julien Loquet. Merci, merci à l'équipe, merci à vous d'avoir écouté ce journal. La météo dans un instant.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Jean-Michel Golinski.
Statu quo ce lundi au niveau des conditions météorologiques, toujours influencées par les hautes pressions de l'Atlantique Nord et une dépression qui circule sur l'Europe centrale, le tout nous envoyant dans un flux de secteur nord-est, beaucoup de nuages sur les régions du nord de la Seine aux frontières suisses et allemandes, avec de temps en temps de la pluie, voire même de l'orage dans le courant de l'après-midi vers l'Alsace et le Jura. De la basse Normandie à la Bretagne et du centre Val-de-Loire au nord de Rhône-Alpes, après un début de journée souvent nébuleux, le ciel va s'éclaircir, tandis que plus au sud, une fois passé un axe Bordeaux-Grenoble, là le soleil sera vaillant toute la journée, avec 28 à 30 degrés l'après-midi près de la Méditerranée, 27 le long de la Garonne, il fera 24 à Nantes, Grenoble et La Rochelle, 21 à 23 vers la Bretagne, le bassin parisien et les Hauts-de-France, et une vingtaine de degrés dans le nord-est et près de la Manche.
Jean-Michel Golinski de Météo France.